France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
C'est l'histoire d'une opération militaire qu'on appelle Opération Dynamo ou Miracle de Dunkerque. Pendant 9 jours en 1940, l'armée britannique organise l'évacuation par bateau de plus de 330 000 soldats alliés coincés par l'armée nazie à Dunkerque et réalise l'un des plus grands sauvetages de l'histoire. Sur les 1100 bateaux de tout type réquisitionnés pour cette opération de la dernière chance, plus de 300 coulent en mer du Nord. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues maritimes et de plongeurs aguerris plonge sur ces épaves pour les documenter et sauvegarder par les cette histoire d'un fait militaire dont les vestiges disparaîtront à terme sous les effets de la corrosion. Pour l'entretien archéologique du jour, nous avons eu la chance d'embarquer sur le bateau nommé le Zef Nordet et d'accompagner cette équipe de plongée archéologique pendant toute une journée. On part en mer sans plus attendre. Cécile Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et conservatrice du patrimoine au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM, et bonjour Claire Destanque.
Bonjour.
Vous êtes archéologue maritime au sein de l'association Archéos. Merci beaucoup de m'accueillir à bord aujourd'hui de ce bateau qui va vous permettre de plonger sur les épaves de l'opération Dynamo. Alors Claire Destanque, tout le monde ne connaît pas en France l'opération Dynamo, c'est un peu notre Alésia des temps modernes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'opération Dynamo, c'est une opération d'évacuation qui a eu lieu du 26 mai au 4 juin 1940 et qui a permis à 338 226 soldats d'être français et britanniques, enfin britanniques principalement, et français et un peu belges, d'être évacués vers l'Angleterre au cours de 9 jours et 9 nuits assez intenses. Il y a entre 1100 et 1500 bateaux qui ont participé à cette évacuation et 305 de ces navires ont été perdus durant ces 9 jours et 9 nuits.
1100 bateaux, pas que des bateaux militaires, c'était des bateaux de tout type.
Exactement, c'était vraiment des bateaux de tout type. Ils ont vraiment appelé tous les bateaux disponibles pour pouvoir évacuer un maximum de soldats alliés. Donc ça va du navire de guerre au navire qui avait été modifié pour la guerre en 1939, mais aussi des navires de transport, des cargos, des paquebots, des navires de pêche, des navires de service comme des remorqueurs et puis des navires de plaisance, les little ships.
Vous êtes une chercheuse complète puisque vous plongez sur ces épaves, mais vous les avez documentées largement avant dans un travail de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce travail de recherche préalable ?
Alors c'était du coup lors de mon master d'archéologie maritime, c'est mon mémoire en fait de master d'archéologie maritime qui a été dirigé par Cécile Sauvage. Et du coup pendant 2 ans j'ai vraiment fait des recherches sur chacun des navires perdus de l'opération Dynamo. Pas sur les 305, ça aurait été un peu trop, mais sur 168, on avait décidé de mettre à part tous les petites unités, les canots de sauvetage et les navires de plaisance de petite taille, parce qu'on ne les retrouvera pas sous l'eau maintenant. Du coup, j'ai pu faire des recherches assez poussées sur 168 navires et vraiment découvrir leur histoire, donc leur histoire personnelle dans la grande histoire de l'opération Dynamo. Et ils ont pour certains des destins très très différents. Donc certains reposent sous l'eau à l'heure actuelle, que ce soit en eau française mais aussi en eau belge et en eau britannique. Mais il y a une partie assez conséquente qui a été renflouée et réparée durant l'occupation puisque les Allemands avaient besoin de remettre le port de Dunkerque en service.
Quand on pense à des épaves, on pense parfois à des très vieilles épaves antiques. Quel intérêt archéologique représentent ces épaves plus récentes, on va dire, et de cette opération qui date de 1940 ?
Les documenter, ça nous permet d'avoir des éléments de détail. On n'est pas là pour réécrire l'histoire de Dynamo, mais on est vraiment là pour récupérer des éléments de détail sur ces épaves, qui sont des épaves métalliques qu'on pense très solides, mais qui en fait, peut-être dans une centaine, 200 ans, du fait de la corrosion, ne seront plus là du tout. Et donc les documenter maintenant, ça permet aussi de les préserver d'une certaine manière.
Cécile Sauvage, quels ont été les travaux préalables nécessaires pour vous permettre aujourd'hui de plonger sur ces épaves ?
Alors, il n'y a pas eu de campagne de fouilles à proprement parler. Nous, quand on parle de fouilles, c'est vraiment l'enlèvement de sédiments pour accéder à une structure comme une épave. Là, les épaves sont bien conservées. On a vraiment les structures qui sont accessibles directement sans enlever de sédiments. Ces épaves, pour la majorité, elles étaient connues des plongeurs de la région de Dunkerque. le travail de Claire a permis de compléter certaines données, de comparer le fait de faire un travail d'archives permet de comparer les différentes sources, de vérifier si toutes les sources disent la même chose, notamment en termes de position d'épave. Donc la première opération qu'on a faite sur Dynamo, c'est en 2023, on est venu avec notre navire de recherche l'André Malraux. On a utilisé un appareil qui est fixé sous la coque du bateau, qui s'appelle un sondeur multifaisceau. En fait, qui va envoyer des ondes acoustiques, donc des ondes sonores. Le son va rebondir sur le fond marin. L'appareil va enregistrer le signal retour. Et grâce à ça, il détermine les profondeurs qu'on va avoir sous notre navire de recherche. Donc, s'il y a une ride de sable sur le fond, il va pouvoir le voir. Mais s'il y a une épave posée sur le fond, il le voit aussi. Donc, on fait en une heure toute une série de passages dans différentes orientations autour du site. Et grâce à ça, on arrive à avoir... en fait, une sorte de modélisation 3D du volume de l'épave. Donc, on n'a pas l'apparence de l'épave, ce n'est pas comme une photo. Ce sont des images que nous, on traite ensuite, nos collègues géophysiciens, donc notamment Alexis Rocha et Marc James, qui avaient travaillé sur l'opération, font tout un travail de traitement pour rendre les images lisibles. Et notamment, quand on commence, là, il faut avoir à l'esprit qu'on est dans des zones à marée. Donc, quand on va commencer l'acquisition, on a une certaine hauteur d'eau. Et puis, quand on finit l'acquisition, au bout d'une heure, une heure et demie, la hauteur d'eau a changé. Donc, il faut corriger les profondeurs en fonction de ce paramètre-là. Et donc, il y a un petit travail, effectivement, de traitement derrière pour avoir des images qui sont bien lisibles. L'avantage de ce travail-là, donc là, c'est vraiment idéal de le faire dans une zone comme Dunkerque. Parce qu'on a des masses métalliques importantes, donc on a du volume, et on a peu de fond, puisqu'on a jusqu'à 40-50 mètres de profondeur, pas plus. Donc l'appareil, du coup, est vraiment adapté. Donc cet appareil nous a donné vraiment une vision d'ensemble des épaves. C'est précis au centimètre près, on peut reprendre les dimensions, la longueur du navire conservé, la largeur, on peut même mesurer parfois les cales, on peut voir des éléments de détail, parce que c'est assez précis, on peut deviner la présence d'un guindeau, la présence de certaines structures. Et on voit aussi l'état de conservation global. Est-ce que l'épave est couchée sur un côté? Est-ce qu'elle a été torpillée? Ça, on peut le comparer avec les archives et ça fonctionne assez bien. Donc cette vision d'ensemble, c'est vraiment une donnée nouvelle parce qu'à Dunkerque, donc, quand on plonge, comme beaucoup d'endroits, en fait, on voit l'épave petit morceau par petit morceau. Et donc quand on a un site qui fait 150 mètres de long, parfois, bah là, avoir la vision d'ensemble, c'est vraiment précieux. Ça nous sert aussi avant les plongées pour nous orienter. Et on a eu la surprise de voir qu'en fait certains plongeurs de Dunkerque connaissaient parfois très bien certaines épaves, avaient beaucoup plongé dessus, et quand on leur montre l'image multifaisceau, ils sont surpris de voir que finalement la coque du foudroyant est pliée en deux. Ils n'imaginaient pas comme ça au fond.
Alors on a parlé de la campagne de 2023, 2024 il y a eu une autre campagne, là vous avez commencé à plonger, c'est ça, sur ces épaves, Claire Destin?
Tout à fait, c'était la première campagne d'expertise en plongée qui a été financée par la communauté urbaine de Dunkerque. C'est une campagne qui a été portée par l'association Archaeos en partenariat avec le DRASM, puisque du coup Cécile Sauvage a été présente sur toute la campagne, ce qui était un énorme plus, puisque moi c'était c'était ma première vraie expertise en plongée. Et on a eu une météo assez difficile. Mais on a quand même réussi à expertiser 6 épaves sur les 14 prévues. Et par contre, on a pu également expertiser les 5 épaves qui se trouvent sur l'estran et qui sont accessibles au très grand coefficient de marée basse et qui sont aussi très très chouettes à voir sur les plages à l'est de Dunkerque.
Vous parlez des conditions. On n'est pas en Méditerranée. Ici, on est en mer du Nord. C'est un peu moins agréable, facile, on va dire. C'est pas du tout la plongée de plaisance que vous pratiquez. Alors, quelles sont ces conditions de visibilité, de marée, etc.
Donc, on plonge à mi-marée, à l'étal de courant. Et c'est vrai que par rapport à la Méditerranée, on n'a pas 15-20 mètres de visibilité. Ici, on est vraiment très très contente quand on a 4 mètres. La semaine dernière, on a fait des plongées où on avait 20 cm de visibilité au mieux. Et c'est vrai que c'est très compliqué dans ces cas-là de documenter les vestiges et même parfois de les trouver avec une si faible visibilité. Mais là, depuis la fin de la semaine dernière, comme on est un peu plus au large, c'est beaucoup plus facile et les visibilités pour Dunkerque sont très belles.
Alors aujourd'hui, on a de la chance, il fait très beau. La mer est plutôt calme, ça tangue un petit peu. Là, je suis un petit peu en train de faire mon twist personnel. Cécile Sauvage, on a besoin de quoi quand on plonge comme ça sur une épave de l'opération Dynamo? Quels sont les instruments que vous allez emmener, vous, en tant qu'archéologue, pour documenter ces épaves?
Alors, quand on plonge sur ces épaves, là, le travail qu'on fait, c'est vraiment un travail d'expertise. C'est-à-dire qu'on essaye en une plongée, si on a plus de temps sur l'opération, on essaiera de faire deux plongées sur chaque site, mais en une plongée, on essaye déjà d'aller à l'essentiel. Donc c'est assez exigeant parce que tout va très vite et quand on a 20 minutes de temps de travail au fond, il faut chercher. Donc on prépare beaucoup en amont, on sait à peu près ce qu'on veut trouver et à peu près où chercher. Et ensuite, on descend avec un équipement qui est assez léger, donc c'est l'équipement de plongée qui est quand même toujours un peu volumineux et lourd. Mais après, l'équipement d'archéologue, c'est un simple filet, une planchette en PVC avec un crayon de papier pour écrire dessus, de quoi mesurer, donc mètre pliant, double décamètre. Et puis après, l'accessoire qui est indispensable à Dunkerque, c'est le phare de plongée parce que c'est très sombre. On descend en palanquée de 3. Donc 3 personnes, un plongeur de Dunkerque qui en général connaît bien l'épave, donc qui va nous guider. En fait, on pourrait faire sans les plongeurs de Dunkerque, mais grâce à eux, on va beaucoup plus vite. Donc ils nous aident à trouver les éléments qu'on veut, une archéologue, donc Claire ou moi, et puis un photographe vidéaste qui va aussi permettre d'enregistrer tous les détails qu'on aura vus.
Alors aujourd'hui on est parti de Dunkerque il y a une heure environ, on va pas tarder à être sur la zone de la première plongée. Quelles épaves vous allez observer et plonger comme vous dites aujourd'hui ?
Alors du coup ce matin on va partir sur un chalutier qui s'appelle le Stella Dorado qui a été construit en 1935. Et qui a été réquisitionné en 1939 par la Royal Navy et équipé pour la lutte anti-sous-marin. Lors de l'opération Dynamo, c'est un navire qui a fait pas mal de patrouilles sur la route Y, donc c'était la route la plus qui passe par la Belgique avant de revenir vers l'Angleterre, qui a été ouverte en deuxième quand la route utilisée en temps de peine a plus été possible de l'utiliser en journée. Et donc c'est un navire qui patrouillait pas mal pour prévenir des attaques anti-sous-marins. Il a d'abord récupérer une partie des naufragés du Sirocco le 31 mai 1940 et il a pu ramener en Angleterre 22 hommes. Et le lendemain, le 1er juin, alors qu'il était en patrouille, il est touché par une torpille depuis un schnellboot et il a coulé et les 5 survivants ont été récupérés par un autre chalutier anti-sous-marin. C'est une épave qui a été identifiée par les plongeurs par sa cloche.
Alors ça, c'est le Stella Dorado et il y a une deuxième épave, je crois, qui va être plongé, observé aujourd'hui par vous, par Cécile Sauvage et puis par les plongeurs du club de plongée de Dunkerque. D'ailleurs, Cécile Sauvage, ces plongeurs-là, ils ont un rôle intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une dimension à la fois de partenariat, de collaboration, mais aussi de pédagogie que vous réalisez auprès d'eux. Et ensuite, eux-mêmes vont transmettre la bonne parole archéologique aux personnes qu'ils accompagneront sur ces épaves.
Oui, l'idée c'est vraiment effectivement de faire un partenariat qu'on a lancé donc depuis l'an dernier avec le club de plongée de Dunkerque. Nous, ça nous fait gagner du temps. Eux, ça leur permet de découvrir là des sites qui sont très loin de la côte sur lesquels ils plongent pas avec leur navire de plongée. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et après aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que au DRASM par exemple, on a quasiment 8000 sites qui sont inventoriés aujourd'hui dans les eaux françaises. 8000 sites, on est 15 archéologues, on se doute bien que ça va être compliqué d'être derrière chacune des épaves. Donc quand on commence à faire ce genre de travail d'inventaire, l'idée c'est qu'ensuite on puisse pérenniser, on fait un premier état des lieux et qu'ensuite les clubs de plongée puissent aussi suivre l'évolution des sites, nous signaler qu'une partie de l'épave s'est affaissée, faire des photos, signaler qu'il y a un chalut de pêche qu'on retrouve maintenant sur l'épave qu'on ne voyait pas avant. Donc c'est vraiment d'impliquer aussi tous ces plongeurs qui parfois dans le secteur plonge pour voir surtout de la biologie marine. Là, l'idée, c'est aussi de les embarquer sur l'archéologie sous-marine.
Alors Claire Destanc, la deuxième épave, la fameuse deuxième épave, quelle sera-t-elle ?
Alors l'épave de cet après-midi, c'est l'Aboukir, un caboteur qui a été construit en 1920. Il a été réquisitionné, pareil, en 1940 pour les besoins de la guerre. Il a été transformé, c'est-à-dire qu'il y a eu un canon qui a été mis sur l'avant et son pont a été renforcé de dalles de béton pour le protéger des tirs de mitrailleuses ennemies. Et c'est un navire qui, lors de l'opération Dynamo, transportait des soldats et des réfugiés depuis Ostende en Belgique vers le Royaume-Uni. Et il a été torpillé le 28 mai sur la route Y. Pareil, c'est le premier navire à avoir été torpillé. Et donc c'est la marine ennemie à ce moment-là s'est rajoutée à la liste des menaces qui était déjà assez conséquente puisqu'il y avait l'aviation ennemie qui sévissait fortement mais aussi les tirs de batterie côtière depuis la côte. Et puis le fait que l'opération s'est fait un petit peu dans la précipitation. Donc par exemple il y a d'autres navires qui ont coulé à la suite de collisions entre eux ou alors ils ont percuté des mines alliées puisque c'est vraiment une zone où les alliés en 1939 avaient mouillé des mines pour empêcher les Allemands de passer.
Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire en tant qu'archéologue sur ces épaves? Est-ce que vous pouvez faire des prélèvements? Pas du tout. Comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y a un statut un peu particulier pour ces épaves-là, Cécile Sauvage.
Alors, en fait, déjà de manière générale, sur les épaves, quelle que soit leur chronologie et leur nationalité, le principe aujourd'hui, c'est de préserver in situ. Donc, on ne prélève pas. Si on fouille une épave romaine et qu'on veut prélever une amphore, il faut déjà s'assurer qu'il y ait un musée qui soit d'accord pour la restaurer, pour la conserver. Parce que tout prélèvement, en fait, a des conséquences. En fait, il y a un objet qui a passé des dizaines ou des centaines d'années sous l'eau. Si on le sort de son milieu, son environnement actuel, brusquement, il va commencer à se dégrader. Ça, c'est le principe général. C'est ensuite, ce qui est particulier sur des épaves contemporaines comme sur l'opération Dynamo, c'est qu'on va avoir des navires de guerre parfois ou des navires civils mais réquisitionnés par exemple l'amirauté britannique pendant le conflit, donc ils sont sous pavillon britannique ou sous pavillon français quand c'est des navires français. Mais là, pour les navires de pavillon britannique, en fait, si on voulait faire n'importe quel prélèvement, il faudrait bien sûr demander l'autorité aux Britanniques, puisque la France reconnaît le droit du pavillon, donc ces navires appartiennent toujours à l'amirauté.
Si on ne peut pas faire de prélèvement, si on ne sort pas les épaves, du coup, comment est-ce que vous allez proposer un travail de synthèse archéologique qui permettra d'être accessible au grand public, et quelles seront les suites, finalement, de ce genre de plongée que vous allez réaliser aujourd'hui?
Là, l'idée vraiment de ce projet, c'est la sauvegarde par l'étude. C'est on enregistre les données avec différents outils, donc le multifaisceau, la vision d'ensemble, les plongées, les photos, la vision de détail. Et en fait, l'idée, c'est de collecter toutes ces données, de les publier d'un point de vue scientifique pour qu'elles soient connues par les scientifiques, mais aussi de faire toute des séries de projets de valorisation pour que ça soit accessible absolument à tout le monde, aux gens de la région de Dunkerque, mais aussi plus largement. Donc il y a un projet de site internet qui est en train d'être réalisé en partenariat avec le parc éolien en mer de Dunkerque. Il y a des projets de fiches pour les plongeurs, pour les promeneurs. Donc on a différents outils qui vont se faire en français, en anglais, pour que ce patrimoine puisse être connu de tous. On l'a fait aussi sur les épaves du débarquement en Normandie, où Teddy Seguin a réalisé des vidéos 360. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse, tout à chacun puisse s'immerger sur ces épaves sans même savoir plonger. Et découvrir qu'en fait, au large, y a des centaines ou des dizaines de vestiges qui ont 80 ans et qui ont toute une histoire.
Du coup, je vous laisse aller vous préparer parce qu'on va pas tarder à aller plonger. Enfin, moi je vais pas plonger, mais vous allez pas tarder à aller plonger sur le Stella Dorado. Je vous retrouve après, puis on va faire le bilan de cette première plongée de la journée.
T'as reçu Pierre-Marc?
Oui.
Donc là, on a vu que le sonar était bon, on est bien sur l'épave, donc du coup on va préparer les balisages. Donc balisage, une gueuse, du bout et deux bouées en surface. Deux bouées qui permettent de voir comment est le courant, comment est le vent. Comme ça pour la présentation du bateau. Pour le pilotage, en fait, c'est des indications en surface. Pour nous aussi, pour voir, tiens, il y a trop de courant, il y a pas assez. Enfin, voilà, on peut envoyer les plongeurs, voilà, il y a beaucoup de courant. Christian Héroux. Donc chef d'opération Hyperbar, en fait, COH. Le chef d'orchestre, on va dire, plage arrière pour les plongées, en fait, donc on gère le temps de plongée des palanquées, on leur fixe les paliers, enfin, donc c'est nous qui leur disons ce qu'ils doivent faire, voilà, le temps, voilà, les maîtres du temps, on va dire, qu'ils doivent respecter, évidemment.
C'est un peu le branle-bas de combat, là.
Ouais, c'est la préparation. En matériel, on vérifie d'abord que nos blocs soient bien gonflés. On plonge avec des mélanges à l'air oxygéné, qu'on les a contrôlés avant. Et on règle nos ordinateurs de plongée, toujours vérifier qu'ils soient bien avec le bon mélange oxygéné. Et après, double lampe, toujours la sécurité, deux masques, deux phares, un fil si la visibilité est mauvaise, parachute de sécurité, et puis voilà, quoi.
Ouais, on est paré, la première fois, on est paré. Ok, départ surface, deuxième palanquée.
Ok, 8h49.
Ouais, bien reçu.
Ça y est, c'est parti.
Ça y est, c'est parti, ouais. Donc maintenant, un peu de patience. On a donc ils sont partis pour 20 minutes de plongée là, après avec un petit peu de palier à peu près une demi-heure en train de de patience, voilà. Et de veille attentive, oui. Parce qu'il y a des gros bateaux qui tournent.
Là, du coup, on n'a plus qu'à attendre et faire les mots croisés, quoi, c'est ça?
Ouais. Les mots croisés obligent à avoir les yeux baissés, non, là, il faut regarder la ligne d'horizon, la ligne bleue d'horizon et surtout ce qui se passe autour des bouées, là. Ouais.
Il y a du passage, hein.
Là, l'épave, elle a combien de profondeur, celle-ci?
Là, elle est à 32 qu'on a vu tout à l'heure au sondeur, ouais, 32 au sondeur, elle remonte de 4-5 mètres à peu près, là.
Donc il y a combien de temps de descente à peu près là, c'est...
Bah là on a vu à peu près, ils mettent moins de 2 minutes à descendre à peu près tranquillement. Ouais. Et après, ils font. Après c'est la remontée qui est hyper importante parce que là on doit respecter la vitesse de remontée pour ne pas faire un accident. Et on remonte 17 mètres par minute à peu près pour remonter. Et après c'est ça qui est compliqué à voir, on a l'image sondeur. Après ça reste des temps qu'on va fixer pour qu'il y ait du travail. L'archéologue, il faut qu'il ait du temps. Donc il faut conjuguer tout. Après, effectivement, là, si on basculait à plus de 20 minutes, tout de suite, ça fait un autre palier à 6 mètres. Maintenant, ça fait deux paliers consécutifs. Après, c'est long, comme ils sont assez profonds. Après, suivant la consommation, il fait froid. Enfin, après, c'est la bouteille qu'on emporte avec nous. Après, bouteille d'air, la réserve d'air, on va dire, qu'il faut maîtriser après. Donc, voilà. Et puis surtout qu'on a une deuxième plongée cet après-midi. Après, donc voilà, le but, c'est de tenir sur la longueur. Hein. Quelle heure tu as à ta 16 tout pile, reçu.
Tout avant 16. Hein.
D'avance. Allez hop, récupération.
Tu jettes un coup d'œil sur les autres écoutes.
Ouais, ça marche.
Normalement, on va voir si. Là, on a qui là.
Ils vont pas tarder.
Teddy monte avec ses petits bras musclés, lui, donc. Ouais, juste récupérer peut-être l'appareil photo.
J'arrive.
Ah ouais, nous, tranquille. Donc là on va s'approcher du bateau et puis hop il va mettre un petit coup de klaxon comme ça les plongeurs vont venir
s'accrocher.
On peut venir s'accrocher ouais, pour pouvoir se rapprocher du bateau. Pour eux ça les... ils savent que c'est débrayé donc il n'y a pas d'hélice qui tourne. C'est... Ils arrivent comme ça. Ça va bien? On verra après pour la bouée, il faut qu'on aille récupérer les autres.
Ouais, ouais.
Et vous êtes contente de cette plongée là? Oui. Vous vous attrape à la sortie de l'eau en combinaison?
Oui, je suis contente, oui. C'est après, donc la partie sur laquelle on a plongé, la proue, il y a eu l'impact de la torpille juste à l'arrière. Donc en fait, il n'y a qu'une quinzaine de mètres à voir, c'est assez réduit. Donc il y avait peu de détails intéressants à documenter du point de vue archéologique. Il y avait une petite ancre qu'on a mesurée, un treuil, des panneaux de cale. Mais après, oui, c'est aussi le... L'ambiance de la plongée était plutôt agréable, plutôt sympa.
Je vous laisse prendre le temps de vous désarnacher.
Merci.
On fait nos comptes rendus de plongée. C'est là comme on enchaîne un peu les plongées. Si on attend pour retranscrire nos notes, on ne sait plus ce qu'on a vu. C'est quand on le fait à chaud, c'est mieux. On se souvient de plus d'éléments. Alors, on est arrivé directement sur la proue. On est arrivé sur l'étrave, on avait bien photographié l'étrave. Après, on a regardé, il n'y avait pas d'encre à bâbord. Puis on est allé sur tribord où il y a une petite encre. Vraiment petite parce qu'elle fait 78 cm de largeur. Et seulement 70 de haut. C'est vraiment petit, je trouve, pour un bateau de taille. Elle est dans les cubiers, c'est pas une encre de secours. Après, on est allé sur le galère d'avant, en fait, où il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, on est allé... On est descendu derrière. On pouvait voir un peu les structures en dessous du galère d'avant. Et là, il y avait un petit treuil.
OK.
Mais petit. Je ne l'ai pas mesuré. Et ensuite, on a regardé un petit peu la cassure, etc. Et on a vu que sur bâbord, la proue sur bâbord, il y a pas mal de manques qui sont dus à la corrosion.
Quand vous plongez comme ça, le temps est quand même vraiment compté. Vous accordez une priorité à quoi? Qu'est-ce que vous allez chercher à observer en priorité?
Bah là, on cherche... en fait, grâce à l'image qu'on a fait au sondeur multifaisceau il y a 2 ans, on a la vision d'ensemble du site. On sait combien il mesure en longueur, en largeur. On voit déjà l'état de conservation global du site. Il y a l'impact de la torpille au milieu, ça, on le voit. Donc ça, on n'a pas besoin de le remesurer ou de le revérifier. Ce qu'on va aller chercher, c'est des éléments de détail les ancres, les guindos, l'artillerie s'il y en a, l'hélice ou les hélices s'il y en a, la motorisation, les blocs moteurs, les chaudières. Et en fait, tout ça, on essaie de mesurer, de faire des photos. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les archives. Donc même si ces épaves, globalement, elles sont bien identifiées, ça vaut toujours la peine de revérifier si ça correspond bien. Ou parfois, il y a des inversions. Là, on a 5 ou 6 chalutiers sur lesquels on a plongé. Il pourrait y avoir une inversion. L'un pourrait être pris pour l'autre. Et donc ça vaut la peine de revérifier. Ouais.
Claire, toutes ces épaves, vous les avez documentées pour votre travail. Alors là, quand vous vous confrontez à la réalité, ça fait quoi de passer de la théorie à la pratique, on va dire ?
C'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu travailler sur les épaves dès le début du point de vue historique, parce que du coup, connaître leur histoire, c'est vraiment plein de petites histoires dans la grande histoire de Dynamo. Elles ont toutes une histoire très particulière. Elles ont coulé pour des raisons différentes, dans des circonstances différentes, etc. Donc déjà, les connaître par les archives, c'était super intéressant. Et puis, plonger dessus, c'est vraiment très différent, puisqu'on ne va pas les voir dans leur ensemble, on va les voir petit bout par petit bout. À Dunkerque, la visibilité, elle est... Alors là, on est très content de la visibilité, et c'est 4 mètres. Donc voilà, c'est 4 mètres par 4 mètres, sur une épave qu'on fait 50, et voire on en a des plus grandes. Mais c'est vraiment super de pouvoir retrouver des éléments de détail qu'on a vus au multifaisceau, de voir l'état de conservation. Et puis ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a plein de projets de valorisation qui sont prévus ou en cours. Et du coup, vraiment pouvoir travailler sur un projet du début des recherches jusqu'à la valorisation, c'est une chance inouïe et j'en suis très très reconnaissante.
C'est déjà l'heure du bilan de cette journée. Là, vous êtes remonté de votre deuxième plongée. La fatigue doit être là, la faim aussi. Je ne vous embête pas longtemps, mais je voudrais savoir comment ça s'est passé cette deuxième plongée, ce que vous avez vu et si c'est une journée satisfaisante pour les archéologues que vous êtes.
Ouais. La deuxième plongée, c'était une très belle plongée. Nous, on était à la palanquée qui était à la poupe. Donc on est tout de suite tombé sur vraiment l'extrémité arrière du navire. L'hélice très bien conservée, magnifique, en place, avec le safran. Donc le photographe a pu faire des belles photos avec l'ensemble de l'arrière qui est bien préservé. Puis après, quand on passe par-dessus, au niveau du pont, en fait, au départ, les structures sont plutôt bien conservées. Puis après, plus on avance, c'est plus... le pont, en fait, du pont n'apparaît que la structure. Donc toutes les parties planes ont disparu. Donc l'épave est... de mon point de vue, plutôt moins bien conservé que celle qu'on a vue auparavant, comme les chalutiers qu'on a documentés ces derniers jours. Mais bon, ça reste une belle épave, il y avait une très belle visibilité.
Claire, c'est le même constat à la poupe ?
Moi, j'étais à la poupe. effectivement, très belle visibilité, et c'était assez étonnant, comme le disait Cécile, elle est moins bien conservée que celle de ce matin. Moi, à la proue, c'est vraiment que le squelette métallique, j'avais pas beaucoup d'éléments de coque, donc c'était un peu difficile de définir où était l'étrave du navire. Voilà, c'était pas très clair. Mais sur l'avant, j'ai quand même vu un beau double treuil qui servait à relever un mât de charge. Et puis une ancre qui était posée sur le pont, assez relativement conséquente, avec une petite ancre juste posée par-dessus, toute petite sur la grande ancre.
Là, l'objectif de la mission est quand même pleinement atteint, parce que l'une des idées cette année, c'était vraiment d'aller documenter toutes les épaves qui sont vraiment loin de la côte, parce que ces épaves-là, c'est plus difficile d'aller les documenter avec un navire comme celui du club de plongée. Et donc là, on a une très belle fenêtre météo qui nous permet de couvrir au moins toutes ces épaves. S'il nous en reste une ou deux à faire près de la côte, c'est pas très grave.
Je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour votre accueil à bord de ce bateau, parce que c'était vraiment une journée merveilleuse. Merci.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe et à la technique Éric Perruchot-Triboulet. Merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.